Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une figure qui est une légende en Italie, le saint universel par excellence. François d'Assise n'est plus à présenter, et pourtant, au-delà des clichés ou des grandes lignes, qui connaît réellement la vie de cet homme? Et qu'avait-il de si singulier pour que près de 8 siècles après sa mort, le parfum de sa vie semble encore venir jusqu'à nous? Ce parfum de la vie franciscaine, une école travaille à la faire découvrir à Toulouse depuis maintenant plus de 10 ans, l'école de spiritualité franciscaine. Aussi ce matin, je vous propose d'être tous, le temps d'une émission, des élèves attentifs. Zoom sur l'école de spiritualité franciscaine, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Ravi de faire cette émission autour du plateau, honneur aux dames. Il y a Marie du Sinaï, vous êtes religieuse Clarisse, abbesse du couvent de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro et merci d'être présent, puisque il faut que les auditeurs le sachent, vous ne sortez du couvent que de manière exceptionnelle, non pas qu'on vous y enferme, mais parce que vous avez choisi d'y vivre. Vous me disiez en préparant l'émission qu'il y a à peu près 10 ans que vous n'étiez pas venu à Radio Présence. Merci de votre présence justement. Le frère Guénolé, je sais, qui est présent aussi avec nous par téléphone, qui est religieux franciscain et spécialiste des relations entre le christianisme et le judaïsme, bonjour.
Bonjour. L'islam.
Vous voyez, j'ai écrit trop vite mon introduction. Et le frère Serge Delceau, qui est religieux franciscain aussi, gardien du couvent de Toulouse et co-responsable de cette école de spiritualité franciscaine. Bonjour.
Bonjour, Nadia.
On va commencer par faire connaissance un peu plus avec François. On le fait régulièrement, mais voilà, comme François est un peu un archétype, on va dire, de la sainteté pour le grand public, probablement qu'il est bon de venir et de revenir sur sa vie. Je commencerai par rappeler ce que le pape François a dit du choix de ce nom. Le pape François, qui est donc le premier pape à avoir pris le prénom de François d'Assise. Il raconte donc au moment de son élection, un ami, l'archevêque émérite de Sao Paulo, le cardinal Claudio Humes, un ami, un grand ami, dit le pape, lui a demandé de ne pas oublier les pauvres, et qu'après, dans son cœur, est monté le nom de François d'Assise. Est-ce que vous avez lu ou entendu d'autres choses à propos de ce choix, frère Serge Delceau?
Eh ben je pense qu'en fin de compte, le pape a voulu choisir effectivement ce nom de François, parce que il a voulu marquer l'importance d'une église renouvelée. Et on sait aussi...
C'était un choix très radical, en fait, de choisir François.
Radical. Et puis aussi, il y a des ponts entre la spiritualité jésuite, puisque le pape François est un jésuite, et la spiritualité franciscaine. On sait que les jésuites se sont beaucoup inspirés, dès le XVIe siècle, Saint Ignace de Loyola, de la spiritualité franciscaine.
Admirer beaucoup Saint François d'Assise.
Oui, et en particulier les exercices spirituels, donc qui ont été créés et mis en forme actuellement par Ignace et poursuivis par la Compagnie de Jésus, eh bien ils ont été d'abord créés par des franciscains.
Voilà. Pour la petite histoire, en tombant sur cet article, je crois, dans le journal La Croix, je l'ai dit, je voulais partager en préparant l'émission, je me dis qu'il est bon que les auditeurs le sachent, il paraît qu'au moment de l'élection, comme ça, certains frères cardinaux ont charrié un petit peu François en lui disant « mais tu devrais te faire appeler Adrien VI plutôt, qui a été un grand réformateur, ou alors Clément XV qui a supprimé la Compagnie de Jésus ». Bref, preuve qu'au plus haut de l'Église, on peut vivre avec tendresse et avec humour, même dans des grands moments comme ça. Le pape François, on y reviendra, hein, qui a explicité en d'autres circonstances ce choix, qu'il voulait être comme annonciateur de l'axe de son pontificat. Mais avant ça, on va se pencher sur la vie de François d'Assise. Alors, François d'Assise, voilà que je ne retrouve plus mes notes pour voir sa date de naissance. Il est né en 1182. Ce matin, frère Serge Delceau, dans le teasing de l'émission, je le présentais comme le fils, enfin, en faisant un parallèle, hein, d'un bon bourgeois toulousain, qui aurait réussi dans les affaires, qui ferait beaucoup d'exports, qui aurait monté par exemple une entreprise de BTP, et puis tout d'un coup son fils, qui était destiné à faire une bonne école de commerce, se met à aller visiter les Roms, à leur donner des sous, voire même à vivre en amitié avec eux. Alors qu'est-ce que vous nous diriez sur le début de sa vie, sur ce qu'il était et la bascule qui a eu lieu dans la vie de cet homme?
Voilà, ben, vous dites un petit peu ce qu'il a été. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait souligner, que c'était au départ un homme ordinaire. Il avait à peu près 25 ans. Il travaillait déjà dans sa boutique de son père comme marchand de tissus.
25 ans, on était déjà un homme à cette époque.
Oui, hein, c'est... parce que 25 ans, on était déjà un homme mûr. Et il avait commencé depuis 10 ans à travailler dans sa boutique. Un, donc il travaillait. Deux, dans cet aspect ordinaire, comme tout à chacun, il avait des rêves. Parce qu'on porte toujours un imaginaire. Et en particulier, lui, son imaginaire, c'était de devenir chevalier. C'était un petit peu la référence de l'époque.
Parce que c'était un bourgeois, ça n'était pas
parce que c'était un bourgeois. Et puis aussi, il était nourri des romans de chevalerie français. Et il voulait certainement sortir de sa boutique et trouvait que vendre des tissus à longueur de journée, c'était un peu ennuyeux. Hein. Et le troisième élément qui nous rapproche, qui rapproche François de nous, c'est que c'était un homme, à l'époque, avant sa conversion, qui aimait faire la fête. On raconte d'ailleurs dans ses biographies de saints qu'il se retrouvait avec des amis et qu'il faisait des gros repas, probablement bien arrosés.
Et il était généreux puisque souvent, il, pareil, il les invitait, ses amis.
Voilà. Et souvent, comme il était riche, les amis le déclaraient roi de la fête. C'est-à-dire, le roi de la fête, c'est celui qui paye tout.
Son père devait être ravi. D'ailleurs, il a eu des relations difficiles avec son père. Hein. Je voyais en préparant l'émission que même une fois, son père est allé le chercher, l'a fait battre et l'a enfermé plusieurs jours, le mettant au régime du pain sec. Qu'est-ce que vous retiendriez dans sa vie comme moment clé qui peuvent aider à comprendre en fait, la bascule intérieure qu'il y a eu dans la vie de cet homme?
Alors, ce qui est assez extraordinaire chez François, c'est qu'il y a eu un basculement de sa vie, mais qui a pris du temps. Qui a pris probablement 7-8 ans. C'est-à-dire aussi, ça nous rejoint, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui, encore aujourd'hui, sont en recherche, et de savoir que le basculement ne se fait pas du jour au lendemain.
Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts.
Que ça se fait, Alors, le propre de la vie de François, c'est que ça s'est fait à travers différents événements. Je vous en citerai que trois. Le premier, qui semble très important dans sa vie, c'est que François, au départ, bon, c'était un homme, je dirais, raffiné, hein, voilà, et bourgeoisie, on pourrait dire, et qui détestait les pauvres, les lépreux, parce qu'ils étaient sales, ils sentaient mauvais, et ils avaient la peau défigurée. Et l'une des expériences fondamentales que François a fait, c'est qu'un jour, dans son cheminement, alors qu'il est à cheval, cela veut dire aussi qu'il est en haut, il rencontre un lépreux, et il se dit, qu'est-ce que je fais? Je fuis où je vais vers ce lépreux. Il fait le choix de descendre de son cheval, de s'approcher du lépreux et d'embrasser cette chair qui est
pourrie. Vous me disiez que si on faisait un parallèle avec aujourd'hui pour essayer de rendre ça compréhensible, ce serait comme tout d'un coup d'embrasser
un SDF,
une personne sans domicile fixe, pardon, qui serait complètement
sans domicile fixe et qui aurait aviné et qui aurait une maladie de peau, voyez. Et il l'a embrassé. Et ce qui est assez intéressant dans ce parcours, c'est que François dit qu'à partir de là, il a senti une expérience intérieure de liberté profonde, une grande douceur, que ce qui était pour lui amer, le fait de rencontrer des pauvres ou des lépreux lui faisait peur, et qu'à partir de là, il a senti une très grande liberté intérieure, une douceur, une expérience. Ça, c'est vrai.
L'autre événement que vous vouliez retenir de sa vie, c'est donc quand il est à l'église Saint-Damien, il a une motion intérieure, comme on dit, il entend une voix qui lui parle et qui lui fait une demande qu'il ne comprend pas tout à fait au début.
Exactement. Donc la voix qu'il entend...
Donc il avait déjà fait un certain chemin spirituel. Là,
ah oui, donc il fréquentait...
Il était converti, comme on dit.
Il était en voie de conversion. Donc d'ailleurs, même ses amis lui ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'il passait beaucoup de temps dans des grottes, dans des petites églises, et puis il ne fréquentait plus les banquets bien arrosés. Qu'est-ce qui se passe?
Mais il allait voir les lépreux, pour le coup, de temps en temps.
Alors, il a commencé à voir les lépreux, et aussi, dans son expérience de recherche intérieure, de prier. Et un jour, donc, il est entré dans cette église de Saint-Damien, qui est encore visitable, qui est à côté d'Assise, et il entend, en priant, une voix qui lui dit « François, va, répare mon église qui tombe en ruine. »
Alors la petite histoire, pour la petite histoire, au début il le prend au pied de la lettre.
Exactement.
Mais surtout, j'imagine qu'il faut, il faut expliciter ce que la voix entendait par, par, alors, par cet appel.
Au départ, il le prend au pied de la lettre, c'est-à-dire il va reconstruire effectivement l'église qui était en ruine, l'église de Saint-Damien, donc il va rechercher des pierres. Mais alors, probablement il a compris par la suite que cette parole signifiait autre chose, c'était effectivement de rebâtir l'église avec un grand E dans des relations autres, dans des relations plus évangéliques. Parce que l'église à l'époque, avec un grand E, c'était une église de type féodal. Où il y avait des rapports quand même assez... des rapports de force assez forts.
L'esprit du monde peut-être à l'intérieur de l'église. Le troisième événement, c'est lorsqu'il entend un passage du Nouveau Testament qui est, je crois, donc l'envoi en mission de Jésus à ses apôtres.
Du Nouveau Testament, on dit que c'est le texte de Matthieu 10, dire aller sans or ni argent, parcourir les routes pour annoncer la paix et la joie. Et là, François, écoutant cet évangile, il dit « Ah, c'est ça ma vocation !» Parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir dans un chemin de vocation, de chemin de recherche, de ce qui est le mieux pour nous, c'est qu'il y a des événements qui sont marqueurs, hein, qui prennent du temps, et puis il y a des éléments de révélation. Et là, il a dit « C'est ça que je veux !» Et à partir de ce moment-là, il décide d'être pauvre, il change d'habit.
Alors redites ce que dit ce passage de l'Écriture aussi. Peut-être pas dans le détail, mais il décrit les apôtres étant envoyés
en
mission sans rien.
C'est... En mission, oui, de partir donc sans or, sans argent, sans besace, sans bâton, et de parcourir les routes pour annoncer l'Évangile, c'est-à-dire pour annoncer la paix, d'aller dans les maisons et d'annoncer la paix dans les villes et les villages. Et il a dit, ça c'est ma vocation. Et à partir de là, donc il va annoncer donc sans rien, avec le minimum, hein, comme un pauvre, comme un mendiant. Là, vraiment, il sera mendiant, il va vivre. Il va annoncer l'Évangile. Et ce qui va se passer, événement inouï, c'est qu'il y a des gens qui vont l'entendre et qui vont dire « c'est ça que je veux vivre » et qui vont le suivre. Et c'est là que va commencer la fraternité franciscaine, où il sera d'abord 1, 2, 3, et puis en quelques années, ils seront 5000.
En quelques années, à sa mort, ils étaient...
Oh, je crois qu'ils étaient 7-8 000 à peu près.
Voilà, 7-8 000. Si on doit continuer de faire écho, non pas, enfin, à sa vie, en tout cas indirectement, on revient sur le choix par le pape François du prénom de ce saint. Le pape François qui a coutume de dire qu'il l'a choisi pour trois raisons, en tout cas je l'ai lu à plusieurs reprises, parce que c'était un ami des pauvres, parce que c'est un homme de paix et parce que c'était un grand ami aussi de la création, comme trois axes du pontificat de François, priorité aux plus pauvres, construire des ponts, être un homme de dialogue, et puis cet amour de la création proclamé donc, dans Laudato Si. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur chacun des points avant qu'on fasse une première pause?
Alors d'abord, homme des pauvres, je dirais en premier point que pour être homme des pauvres, comme a été François, il faut d'abord faire l'expérience d'être pauvre soi-même. Et il a fait cette expérience de pauvreté, telle que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans son cheminement de désappropriation, hein, de vivre tout simplement sur les routes, et d'embrasser les lépreux. Je crois qu'on ne peut être dans une situation de réception et de fraternité avec des gens qui sont démunis que si soi-même, on a fait cette expérience d'être soi-même démuni.
Puis il a été coupé de sa famille, alors, il n'était pas compris de l'église de son temps.
Exactement. C'est... Il a fait une expérience d'être à la marge de l'église. Donc ça, c'est vraiment un pauvre. C'est pour ça qu'on l'appelle le poverello. Hein, voilà. Ça, c'est très important.
Il était aux périphéries de l'église.
Aux périphéries de l'église. Deux, pour ce qui est...
De l'homme de paix.
De l'homme.
On verra ça, hein, davantage avec le frère Guénolé, je sais, avec qui on va parler de la rencontre de François avec le sultan. Mais...
Alors, pour l'homme de paix, c'est-à-dire que la paix, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, qui tombe du ciel, je dirais. La paix, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose aussi qui se construit dans le temps. Il faut voir aussi que François, donc c'est l'homme de la conversion, c'est l'homme converti, qui chemine lentement, pas à pas, dans ses rencontres, sa lecture de l'Évangile. Et c'est un homme de paix. Parce que, principalement, il sait que seul, par lui-même, il ne peut rien. Et entre autres, il demande dans sa prière, c'est un homme de prière qui fréquente les grottes, qui fréquente les églises, « Seigneur, donne-moi ton esprit de paix ». Et à partir de là, pour lui, être un homme de paix, eh bien, c'est d'abord ne pas juger son frère dans le quotidien, parce qu'on sait que quand on juge, on est en situation d'être au-dessus. Ne pas juger, être aussi, eh bien, ce qui est important, avoir peu, c'est-à-dire on n'est plus homme de paix à partir du moment où on a des biens, parce qu'on essaie de les défendre. Voilà. Donc avoir peu et ne pas juger et être respectueux de chacun. Voilà, c'est ça, à mon avis, qui est très important.
On y reviendra à ce sujet, hein, le pape François qui, le 20 septembre 2016, lors des 30e rencontres mondiales des religions pour la paix, organisée par la communauté San Egidio, disait « Seule la paix est sainte, pas la guerre », et qui reprenait la figure de François comme un exemple pouvant aider à tenir le cap de la paix à tous ces chefs religieux. En tant que chefs religieux, nous sommes appelés à être de solides ponts de dialogue, des médiateurs créatifs de paix. Sur le dernier point, la création, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, ce que je dirais, donc, c'est l'homme de la création.
J'ai lu des histoires encore.
L'homme de la création
universelle. François parlait aux oiseaux, oui. Il les bénissait presque sur le front.
C'est... Pour lui, si je fais le continuum avec ce fait que c'était un homme pauvre, ami des pauvres, voilà, homme de paix, homme de douceur. Pour lui, la création, comme il vit en marge, pour lui, la création, que ce soit les hommes, les animaux, les minéraux, tout ce qui entoure, ce sont des frères. Et des frères consolateurs, parce qu'il vit dans une expérience de pauvreté extrême. Et c'est-à-dire, à partir de là, des frères consolateurs, c'est-à-dire, il reconnaît l'importance de leur présence dans ses vies. Il les honore, voilà.
Il n'écrasait pas les moustiques tigres, Saint-François, alors
c'est... Alors ce que je vous dis, c'est très intéressant, parce que Celano nous dit qu'il était très respectueux, par exemple, lorsqu'il marchait, et qu'il voyait un ver de terre, il ne l'écrasait pas. Il passait délicatement à côté. Vous savez pourquoi? Alors là, on est dans la symbolique médiévale. C'est parce que le ver de terre, dans un psaume, on dit que le Christ est comme un ver sur la croix.
Voilà, Saint-François et l'école de spiritualité franciscaine. En tout cas, déjà, on peut entrevoir ce qui est donné dans cette école. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, eh bien, le prochain rendez-vous est donc le 14 octobre, être franciscain en Algérie. C'est de 20h30 à 22h au monastère des Clarisses à Toulouse. On redonnera toutes les informations pratiques. En tout cas, il y a un site internet www.franciscain.toulouse, franciscain avec un s.fr, www.franciscain.toulouse.fr. On fait une première pause et puis on va vous retrouver. Vous retrouvez tous, hein, mais entre autres frère Guénolé-Jessé, pour évoquer donc la rencontre de François avec un sultan à l'occasion d'une croisade dont on fait mémoire régulièrement dans l'église et qui en dit long sur la conception qu'il faudrait avoir du dialogue interreligieux.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur l'école de spiritualité franciscaine, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Marie du Sinaï, religieuse Clarisse et abbesse du couvent de Toulouse, couvent de Clarisse. Guénolé Jessé, religieux franciscain, spécialiste des relations entre le christianisme et l'islam. Et Serge Delso, lui-même franciscain, gardien du couvent de Toulouse et donc co-responsable de cette école de spiritualité franciscaine dont on parle ce matin. Vous êtes le deuxième intervenant de cette année pour le thème de cette école qui est au long de la saison 2019-2020, Saint-François aux quatre coins du monde. Frère Guénolé, je sais, le 11 novembre prochain, vous serez là pour une conférence sur le thème « Inch'Allah, François et le Sultan ». C'est l'occasion de rappeler, en 2019, c'est l'anniversaire donc, d'une rencontre entre François d'Assise et le sultan Al-Malik Al-Kamil à l'occasion de la cinquième croisade. Je propose pour commencer que vous nous resituiez un petit peu le contexte historique pour tous ceux qui ne sont pas familiers de cette époque. Qui était ce sultan et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là près de Damiet ?
Eh bien, donc en 1219, c'est la bataille entre les croisés et les musulmans à Damiet, dans le delta du Nil, non loin du canal de Suez. Et François est arrivé depuis quelque temps et il profite d'une trêve pour passer dans le camp du sultan. Ce sultan est Al-Malik Al-Kamil, c'est le neveu du grand Saladin. Et c'est une dynastie brève, mais qui marquera par son esprit d'ouverture, je dirais, face aux croisés qui n'ont pas tout à fait la même ouverture.
Alors dites-nous-en un tout petit peu plus. Donc c'est la dynastie des Ayyoubides. Oui. On se fait parfois l'image de ces sultans comme étant, de vrais barbares. Ce n'était pas du tout le cas, expliquez-nous.
Non. Vous savez, au moins depuis Saladin, la dynastie des Ayyoubides est une dynastie qui est imprégnée de mysticisme, Al-Malik Al-Kamil est entouré de soufis, donc de mystiques musulmans. Et c'est un islam qui recherche la paix, hein, qui voit évidemment dans les croisés des envahisseurs, mais qui ira jusqu'à... quand Saladin aura repris Jérusalem, il permettra certains pèlerinages. Et puis... Après, quand son neveu sera sultan, il finira par faire un traité avec Frédéric II, l'empereur de Sicile, Germanie et Sicile, pour ouvrir Jérusalem à tous les cultes. Alors, ça n'a pas été compris, mais justement, cette rencontre entre François et le sultan réussit bien parce que des deux côtés, il y a une courtoisie, un sens de Dieu que... on ne reconnaît pas toujours, et à la fois chez des religieux musulmans radicaux, comme chez des prélats de l'Église romaine.
Alors, on revient sur cette rencontre. Donc, en juillet-août 2019, François d'Assise donc, arrive à Damiette. C'est le lieu donc, d'une bataille, d'un siège même autour de cette ville, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, avec un frère, il file, il passe les lignes et ils vont donc, dans le camp ennemi. Déjà, tout ce que vous allez nous raconter, qu'est-ce qu'on a comme source ? Qui a écrit sur cette rencontre ?
Alors, il y a 17 documents, hein, 14 personnes avec 17 documents dans les 50 premières années qui suivent l'événement.
Ce qui est beaucoup, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, c'est beaucoup. Hein, mais on ne peut pas s'y fier beaucoup parce qu'ils n'étaient pas dans la tente du sultan pour voir ce qui s'est passé et qu'ils inventent, d'une manière différente d'ailleurs parfois, qu'ils inventent ce qui s'est passé entre lui et le sultan. Il y a trois choses qui sont sûres, c'est qu'il est parti avec le frère Illuminato, ils ont été bien reçus.
Le frère Illuminato qui parlait arabe, hein, c'est...
Oui, peut-être, hein. Oui,
c'est pas sûr.
Probablement, hein. Mais il y avait d'autres personnes qui pouvaient traduire dans la cour du sultan, en particulier des marchands italiens qui fréquentaient beaucoup la ville de Damiette et du Caire. Et donc, Il passe dans le camp, ça c'est sûr. Il est reçu avec courtoisie et il est revenu puisque les croisés les ont vus revenir alors qu'ils pensaient qu'ils étaient morts, quoi.
Alors, il est reçu avec courtoisie. Ce que dit l'histoire, en tout cas à vous lire dans la conférence que vous m'avez fait suivre, au début, ça se passe pas comme ça. Au début, ils sont battus et puis on finit par se dire que ça doit être soit des émissaires, soit des hommes de Dieu. Comment ça se passe au début? J'imagine qu'on leur a pas déroulé le tapis rouge, comme on dit.
Non. Au début, probablement qu'ils ont été pris pour des espions. Hein. Les chroniqueurs, mais c'est eux, je me méfie beaucoup de ce qu'ils racontent, mais disent qu'ils ont été battus, ce qui est probable, hein, et qu'on les prend pour des espions, et puis peu à peu, on se rend compte qu'ils demandent à voir le sultan, donc ce ne sont pas des croisés qui vont passer à l'islam, ça arrivait quelquefois, mais, ou qui désertaient simplement la guerre. Et puis, ils sont reçus par le sultan auquel on les conduit.
Alors, ils sont restés combien de temps? Combien de temps a duré cette entrevue? Ça n'a pas duré 48 heures, donc on peut extrapoler en se disant que François a prié au milieu des musulmans, qu'il a entendu les musulmans prier. Qu'est-ce qu'on sait de la durée de cette rencontre ou de ces rencontres?
Alors, on sait que la trêve a duré 3 semaines, donc moi j'imagine qu'ils sont restés une quinzaine de jours là-bas. Hein. Alors, ils n'ont pas été reçus tous les jours par le sultan, hein, c'est évident. Même si c'était la trêve et qu'il avait un peu plus de temps. Mais ils sont restés sûrement une ou deux semaines dans le camp des musulmans.
Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont partagés? Que disent les chroniqueurs, même si vous remettez en cause un petit peu ce qu'ils ont pu écrire sur cette rencontre?
Les chroniqueurs disent que François a défendu la religion devant les ennemis et que sa parole a été fructueuse. Pour certains, pour d'autres, ça n'a réussi à rien. Et par exemple, Jacques de Vitry, un évêque de Saint-Jean d'Acre, qui raconte dans un premier texte, le plus ancien, 6 mois après la visite, que le sultan doute de sa religion parce qu'il demande de prier pour lui. Et le sultan, voyant qu'il ne réussit à rien, que le sultan ne se convertit pas, il revient. 2 ans après, il fait un livre sur l'histoire d'Occident et d'Orient. Et là, il dit qu'au contraire, le sultan le prie de partir parce qu'il est capable de convertir toute son armée, quoi. Vous voyez, donc on invente un peu des choses dans l'esprit de ce qu'on imagine dans une mentalité de croisade. Mais ce qui est sûr, on peut se fier à un texte écrit par Saint François. C'est la seule source, à mon avis, qui est la plus fiable. Un texte qu'il écrit dans sa règle, où il demande aux frères de repartir s'ils le veulent, et qu'ils doivent se considérer là comme des petits frères des musulmans, dans une première méthode. Et si Dieu le permet, Inch'Allah, si Dieu le permet, eh bien, ils pourront annoncer verbalement la religion chrétienne.
Alors de fait, vous expliquez donc que quand il rentre, il reprend donc son chapitre sur la mission intitulée de ceux qui vont chez les Sarrasins et autres non-chrétiens, et qui l'évoque donc deux manières de se comporter à l'égard des musulmans. Je cite, ou bien ne faire ni procès ni dispute, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et confesser simplement qu'ils sont chrétiens, ou bien s'ils voient que telle est la volonté de Dieu, annoncer la parole de Dieu afin que les païens croient au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint. Etc. Pourquoi est-il important en fait de faire mémoire de cette rencontre? Le pape François lui-même a cité plusieurs fois, et on va y venir, cette rencontre comme un modèle prophétique. Pourquoi est-ce que vous passez autant de temps à parler de cette rencontre, frère Guénolé-Jossé?
Parce que ça me paraît absolument une rencontre qui a été oubliée pendant 7 siècles et qu'aujourd'hui on se retrouve un peu dans une mentalité de anti-musulmane du côté de l'Occident, et qu'il y a des mouvements radicaux en islam qui ont provoqué un petit peu tout ça. Et donc, on peut reprendre la démarche de François en pleine guerre qui va voir le sultan d'Égypte. Et les rencontres ne sont pas forcément réussies, mais là, on a une rencontre réussie parce que des deux côtés, il y a un désir de spiritualité. Il faut dire absolument, parce qu'on l'oublie beaucoup, que l'entourage du sultan est un entourage de soufis. Il a même amené son père spirituel, je dirais, depuis le Caire jusqu'à Damiet, pour l'avoir près de lui-même pendant la bataille.
Les soufis étant des mystiques musulmans. Hein.
Oui, oui.
Sur ce volet, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de l'attitude de François, qui serait un exemple pour toute l'Église, et on verra après que le pape François le cite. Ce qui est demandé aux chrétiens, c'est quoi? C'est d'avoir l'audace de la rencontre, l'audace de la paix, d'oser être soi-même, et d'avoir d'abord cet amour et cette folie.
D'avoir l'esprit de l'Évangile qui demande que nous soyons tous frères. Si Jésus a sauvé tous les hommes et qui s'est fait le frère de tous les hommes, nous, chrétiens, nous devons être les frères de tous les hommes, même ceux qui sont différents de nous. Et là, on a parlé de François rencontrant le sultan, le lépreux, je veux dire, ça l'ouvre à un autre monde et il ira donc jusqu'à la périphérie religieuse qu'est le passage de l'autre côté de la frontière des religions.
Vous expliquez aussi donc que Jean-Paul II, en 1986, lors de la première rencontre d'Assise, la rencontre interreligieuse et même, on pourrait dire, presque interconvictionnelle, comme on dit aujourd'hui, a parlé donc de cette visite de François au sultan, à Damiette. Vous nous expliquez aussi que... Non, il n'en a pas parlé.
Il ne le connaissait pas, il n'en parle pas, sans ça il l'aurait évidemment cité.
Ah d'accord, excusez-moi. Oui, non, au contraire, oui, il n'y a eu aucune allusion. Vous dites par contre que Benoît XVI, lui, avait parlé de cette rencontre et que François, donc, l'a cité à plusieurs reprises. Expliquez-nous.
Non, non, je dirais qu'en...
J'ai rien compris, alors heureusement que vous êtes là.
Non, non, non. En 1995, Jean-Paul II reçoit la commission des relations avec l'islam de l'ordre franciscain. Je suppose qu'un franciscain avait préparé le discours... Et donc, ça l'a aidé, et il cite à ce moment-là la visite au sultan. Et Benoît XVI, une fois plus tard, Benoît XVI en parle dans sa catéchèse sur les saints de l'Église, et quand il en arrive à Saint-François, il y a une petite allusion à la démarche de François vers le sultan. Mais c'est vraiment avec le pape François, et pas au début, il ne connaît pas le pape François quand il va en Égypte, 3 ans après son élection, qu'il aborde, fait une allusion à la visite de François à Malik al-Kamil.
Alors je me permets de vous citer, au détour d'une phrase, François dit la chose suivante, qu'il intercède pour cela, Saint François d'Assise, qui il y a 8 siècles est venu en Égypte rencontrer le sultan al-Malik al-Kamil.
Voilà, oui.
Et alors, vous parlez surtout donc de la déclaration de la fraternité du 4 février dernier. Le pape François s'était rendu donc à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et il y a eu une déclaration donc conjointe avec le responsable de la mosquée Al-Azhar, qui est un des grands lieux sunnites. Pourquoi est-ce que, enfin, vous faites un lien entre cette déclaration importante et cette rencontre de François avec le sultan?
Parce que le même jour, il en parle dans l'homélie de la messe, hein, et qu'il cite même le chapitre 16 de la règle que vous avez lu tout à l'heure. Hein. C'est la première fois. Donc, c'est la deuxième fois qu'il parle de François et du sultan, mais là, à Abu Dhabi, non pas dans le texte sur la fraternité, mais dans l'homélie de la messe, il évoque même le chapitre 16. La démarche sur la fraternité humaine est exactement ce que Saint François a fait en 1219. Saint Bonaventure dit qu'il, considérant même les créatures comme les oiseaux et tout ça, comme ses frères et sœurs, à plus forte raison considérait-il comme frères ceux qui ont mérité du salut et de la grâce, c'est-à-dire les hommes. Et c'est à cause de cela que François va dire aux musulmans dans le camp du sultan qu'ils sont ses frères.
Eh bien, si on veut en savoir plus, donc rendez-vous est donné, cette fois c'est le 11 novembre prochain, on pourra reparler de cette rencontre incroyable donc, entre François et le sultan, et surtout de ce qu'elle a à dire à l'Église aujourd'hui et à chacun de nous près de 8 siècles plus tard, pour une conférence, donc Inch'Allah, François et le sultan avec vous, frère Guenelé, je sais, à l'école de spiritualité franciscaine. Je rappelle, c'est donc une fois par mois, le lundi de 20h30 à 22h, rendez-vous est donné à Toulouse au monastère des Clarisses, ainsi site internet www.franciscain.fr, www.franciscain.fr. On fait une pause et puis on vous retrouve, vous tous et entre autres donc vous, Marie Ducinaille, qui avait fait l'amitié à Radio Présence donc de venir. Vous êtes religieuse clarisse, pour rappel, vous ne sortez pas souvent de votre couvent, et on va parler de la manière dont vous avez embrassé la vie franciscaine, d'âme pauvreté, comme dit saint François d'Assise, et puis du rayonnement international des franciscaines.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur l'école de spiritualité franciscaine, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin autour du plateau. Marie Ducinaille, religieuse clarisse, abbesse du couvent de Toulouse, le frère Guénolé José, franciscain, ainsi que le frère Serge Delceau, franciscain lui aussi, et gardien du couvent de Toulouse. On va essayer de, après avoir été fort studieux, hein, à rappeler la vie de saint François d'Assise, cette rencontre, mais en même temps c'est important, et puis c'est une bonne illustration de ce qu'on peut vivre dans cette école de spiritualité franciscaine. J'aimerais que vous parliez un petit peu plus à la première personne. Alors c'est surtout Marie Ducinaille que je vais interroger, mais ça ne vous empêche pas l'un et l'autre d'intervenir. Mère Marie Ducinaille, exercice peut-être difficile pour vous qui ne passez pas souvent à la radio. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre entrée dans la vie franciscaine, pourquoi vous avez choisi d'embrasser cette vie. Vous êtes donc religieuse depuis maintenant 47 ans, vous êtes rentrée en 1972, c'était à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou le souvenir que vous en avez? Alors on imagine que ça ne s'est pas fait comme d'un claquement de doigts, hein, comme la vie de saint François d'Assise, mais vous êtes aujourd'hui, alors les auditeurs ne vous voient pas, avec votre habit, on imagine un petit peu la vie que c'est d'être clarisse, même si c'est difficile. Pourquoi avez-vous choisi ce chemin?
D'abord, je veux dire qu'il y a d'abord un appel à suivre le Christ. Et pourquoi j'ai choisi la vie franciscaine? D'abord parce que j'ai découvert la personnalité de saint François, qui m'a beaucoup fascinée.
Vous l'avez découvert jeune, étant enfant ou adolescente ou...
Non, je l'ai découvert, je le connaissais mais sans plus. Mais je l'ai découvert déjà plus qu'adolescente, oui. Ce qui m'a beaucoup attirée chez lui, justement, c'est tout ce qu'a dit un peu le frère Serge sur sa personnalité, cet amour de la création, son attitude aussi non violente, son amour vraiment de toute créature, cette fraternité absolument sans limite, universelle, et son désir de, enfin, d'abolir tout ce qui peut être classe ou tout ce qui peut séparer.
Et... Parce que c'est vrai que le mot fraternité, on l'entend souvent, mais on a l'impression qu'avec saint François, il est comme révélé. C'est une fraternité radicale. Ce qui prime, c'est d'abord la relation fraternelle
en toutes circonstances,
c'est ça ?
Oui, oui. Et avec cette douceur, cette non-violence, cette ouverture, ça m'a paru aussi un chemin très épanouissant. C'est la joie aussi, la joie de Saint-François.
Vous me dites que là, vous n'avez pas beaucoup ri pour l'instant en plateau, mais vous me dites que vous riez souvent chez les Clarisses.
Ben oui, on rit assez, oui. Mais c'est la joie et puis la paix aussi, cette paix.
Alors, vous êtes donc fille de Claire, donc l'ordre des Clarisses, qu'on appelle aussi l'ordre des pauvres dames. Claire, donc, qui à l'âge de 18 ans a entendu cet appel et a voulu suivre à sa manière François d'Assise. Je ne sais pas si les Clarisses ont connu le même succès dès les débuts que les franciscains. Est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes filles de bonne famille d'Assise qui couraient après cet idéal avec Claire?
Alors moi, j'ai connu d'abord François, oui. Et puis,
Alors je parle de Claire, hein,
oui,
Claire
compris,
au XIIe siècle.
Hein. J'arrive. J'arrive. Parce que Claire, justement, est la fidèle disciple de François. Et elle a vécu sa spiritualité, mais avec son tempérament de femme passionnée, vraiment. Et c'est l'amour qu'elle a contemplé dans le Christ pauvre et crucifié. Ce qui m'a aussi attirée dans François et dans Claire, c'est ce détachement vraiment de toute chose pour aller à l'essentiel, vraiment, au cœur même du message de l'Évangile. Et vraiment, quand on parle de fraternité, ben c'est encore trop... C'est beaucoup plus... Comment dire ? C'est vraiment sans limite pour François. J'aime bien le mot universel parce que vraiment, il n'y a pas de limite.
Qu'est-ce que ça veut dire d'épouser dame pauvreté ? C'est une expression qu'on entend dans la bouche de François d'Assise. L'un ou l'autre, on l'a déjà entendu. On a un peu du mal à comprendre. On se dit, bon, les religieux font vœu de pauvreté, d'accord. Normalement, ils vivent de la providence. Ils n'ont pas de bien en propre. Mais épouser dame pauvreté, ça veut dire quoi ? Comment vous le comprenez après toutes ces années de vie religieuse ?
Je dirais deux choses.
Ouais, du Sinaï.
D'abord, François, c'est toujours cette même démarche. Il est frère de tout. Et il voit dans la pauvreté du Christ, le Christ a épousé la pauvreté. Pour lui, c'est vraiment la démarche du Christ qui s'incarne et qui épouse notre condition, il épouse la pauvreté, c'est une alliance, il voit comme une alliance. Et donc, il va appeler la pauvreté épouse, parce qu'il la personnifie, c'est comme une sœur aussi pour lui. Et il va l'épouser uniquement parce que le Christ l'a épousée.
C'est quoi ? C'est la marque de fabrique de l'amour de Dieu, j'ai envie de dire presque, c'est ça ou...
Oui, c'est vraiment cette démarche d'amour, oui.
Serge Delceau, comment vous l'avez épousée aussi, cette dame pauvreté ? Qu'est-ce que vous pourriez dire en complément ?
Alors, je dirais ceci, c'est que dame pauvreté, c'est une figure féminine, hein, puisque c'est une dame. Et elle évoque aussi pour moi la sagesse. La sagesse qui est aussi une figure féminine. On sait que d'ailleurs, je pense, le terme hébreu de sagesse est un terme de type féminin. Et je crois que c'est la dimension d'une réalité spirituelle qui prend tout l'être. Voilà, qui renouvelle tout l'être, cette sagesse. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'épouser.
Et en quoi, chez les franciscains ou chez les clarisses, on le vit avec un accent particulier ? Je le disais, c'est un peu le propre normalement de toute vie religieuse.
Alors, peut-être l'un des accents, on le retrouve dans la règle. C'est peut-être pas évident à vivre dans la règle. Donc nous, franciscains, on fait pas vœu de pauvreté.
Non.
Ah bon ?
Non.
Première nouvelle, c'est un scoop.
Non.
Les franciscains sont les seuls religieux à pas faire vœu de pauvreté.
Non, parce que dans la règle, on ne demande de rien avoir en propre.
Voilà.
De rien avoir.
On fait c'est ça justement. Et en même temps, j'aime bien qu'il relève le fait que
Excusez-moi, mais quelle est la différence ? Parce que vous jouez sur les mots là. C'est...
Non.
Je vais faire.
Allez, Marie du Sinaï, expliquez-nous.
Je suis contente qu'il relève le mot de sagesse, parce qu'effectivement, cette non-appropriation de de tout, c'est vraiment une sagesse, finalement, pour la vie.
Donc,
avec un grand S. Hein.
Explicité, vous ne faites pas de vœu de pauvreté parce que de toute façon, vous n'avez rien en propre, c'est ça? Voilà. Donc il n'y a pas besoin
de faire
vœu de pauvreté.
On fait vœu de n'avoir rien en propre. On fait vœu de n'avoir
c'est-à-dire
rien.
C'est-à-dire une désappropriation. On est appelé. Hein.
Donc vous n'êtes pas propriétaire de vos couvents, votre compte en banque, ce n'est pas vous qui le tenez.
Enfin, on est appelé aussi à rien avoir, c'est-à-dire que les biens que l'on a sont même personnels, sont normalement à la disposition des frères aussi.
J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu du thème de l'année, Saint François d'Assise aux quatre coins du monde. Vous avez voulu donc cette année mettre cet accent, montrer que la vie franciscaine voyez, rayonne de par le monde. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre cet accent cette année, frère Serge Delceau?
Alors parce qu'on va vivre bientôt un grand événement en France au niveau de la famille franciscaine et pas seulement au niveau de l'Église en France, puisqu'on va refêter à la fin octobre, effectivement, cet anniversaire du 8e centenaire de la rencontre de François le Sultan. Et d'ailleurs, la messe du jour du Seigneur du dernier dimanche d'octobre sera célébrée à Créteil, diffusée à la télévision, en lien avec, présidée par des évêques, etc. Donc, on voulait d'ailleurs initier cette année en parlant effectivement de l'importance de ce qu'est l'islam par rapport à Saint-François et la famille franciscaine dans ce dialogue interreligieux qui est fondamental et que le pape François souhaite aussi continuer, mais de dire aussi qu'il n'y a pas que la relation avec l'islam pour les frères, il y a aussi la relation avec le monde entier. On sait par exemple les frères sont partis dès le XVIe siècle, dès la découverte de l'Amérique. Vous savez que Christophe Colomb, lorsqu'il est parti là, découvrir l'Amérique, vous savez qu'il est dans le bateau où il est parti, il y avait un aumônier. Et cet aumônier, c'est un franciscain. Donc, ils ont lancé l'Église en Amérique latine, même chose aussi en Asie. Des franciscains sont partis à pied dès le XIIIe siècle, à pied.
À pied jusqu'en Asie.
À pied jusqu'en Asie, rencontrer le grand camp des Mongols.
Bon. Il en fallait du courage, comme d'aller voir.
Alors, certains sont morts en cours de route, c'est pour ça qu'on en a envoyé plusieurs, effectivement, pour être sûr qu'il y en a au moins un qu'ils rencontrent. Et même chose aussi, donc pour l'Afrique, les frères sont partis aussi en Afrique.
Et même chose pour les Clarisses, sœur Marie du Sinaï. Dès les débuts, Claire a eu comme intention d'envoyer des sœurs fonder des monastères à l'étranger.
C'est-à-dire que grâce aux frères qui étaient itinérants, la forme de vie et la renommée de Claire s'est beaucoup étendue. Et dans toute l'Europe, on a comme preuve les correspondances que Claire avait avec Agnès de Prague, qui était la fille du roi de Bohême. Elle aurait dû épouser l'empereur Frédéric II. Elle a refusé et elle a fondé un hôpital et un monastère de Clarisse, de monastère où elle a fait venir des Clarisses. Et on a la correspondance. Au moment de la mort de Claire, il y a à peu près 150 monastères.
150 monastères.
En Europe et au-delà de l'Europe.
Alors, qu'est-ce que ça dit, pour finir, de la vie, de la spiritualité franciscaine? Parce que beaucoup de saints fondateurs ont eu cette attention, on va dire, à l'international. Est-ce que c'était particulièrement prégnant chez les franciscains? Ça disait cette attention à l'universel de François d'Assise et de Claire?
Je pense que ça renvoie à l'écho qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. Cet aspect du texte d'évangile de Matthieu 10 qui a parlé à Saint François d'annoncer au monde entier l'évangile de la paix et de la joie. Et donc de facto, ça rayonnait à travers les frontières, puisque c'est un message de fraternité universelle.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de l'école des spiritualités franciscaines. Je redonne les informations pratiques. La prochaine soirée, c'est donc le 14 octobre. C'est un lundi. Être franciscain en Algérie, ça sera avec le frère Pascal Aude, qui est capucin. L'école de spiritualité franciscaine, c'est donc une fois par mois les lundis de 20h30 à 22h à Toulouse, au monastère des Clarisses. Je redonne une dernière fois le site internet www.franciscain.fr, www.franciscain.fr. Cette année donc sur le thème Saint François aux quatre coins du monde. Un grand merci à vous et particulièrement à Marie du Sinaï. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.